D'être dans ta présence. Quelle joie d'être lavé aussi par ton sang précieux, d'être lavé par ta parole, d'être lavé par ton Esprit Saint, être renouvelé ainsi pour t'aimer davantage, te refléter davantage, te glorifier davantage. Seigneur, alors que nous ouvrons les Écritures, comme tu l'as fait autrefois à tes disciples, ouvre-nous les Écritures, Seigneur. Amen. Car c'est ta parole est esprit et vie. Enseigne-nous, Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions recevoir cette parole. Et trouve en nous des cœurs dociles et obéissants à ta voix. Merci, Seigneur. Notre attente est en toi encore maintenant. Nous comptons sur l'assistance et le ministère du Saint-Esprit, afin que nous puissions être enseignés dans la vérité et que Jésus seul soit exalté au milieu de nous. À lui soit la gloire. Le règne et la puissance. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Il est bon de nous tenir dans la présence du Seigneur.
Amen. Alléluia.
Nous lui avons ouvert nos cœurs pour le louer, l'adorer, l'aimer, car il en est digne. Lui seul est digne de notre louange et notre adoration. Aucun homme, aucune femme, aucune église, quelle qu'elle soit, n'est digne de l'adoration. Seul Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur, en est digne. Amen. Amen. Ainsi, nous sommes venus pour lui et nous sommes venus écouter sa parole, qui est la Bible. Et au travers de cette Bible, le Seigneur nous parle. Et nous parle avec autorité, avec simplicité, mais il parle directement à nos cœurs. La réponse à tous nos besoins est dans cette parole de Dieu. Amen. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, a dit le Seigneur. Les paroles des hommes sont pour notre information, mais la parole de Dieu seule est pour notre transformation. Amen. Alléluia. Les hommes informent, mais Dieu seul transforme. Parce que ses paroles sont esprit et vie. Ainsi, laissons-nous enseigner. Le Seigneur connaît les besoins de chacun, qu'il inspire selon ses besoins, afin que nous soyons nourris, vraiment nourris, encore au travers de sa parole. Le sujet que je voudrais aborder est un sujet très simple et pratique qui nous concerne tous, car tous nous désirons servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre, que ce soit à plein temps ou là où nous vivons, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Tous. Personne ne peut dire, moi je ne suis pas appelé à le servir. Peut-être pas à plein temps, mais tu es appelé à le servir tout le temps. C'est-à-dire que si tu es au Seigneur, ta vie ne t'appartient pas. Tu appartiens à celui qui est mort et ressuscité pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Il veut t'utiliser au-delà de tout ce que tu peux imaginer pour être une bénédiction aux autres. Ainsi, nous allons simplement voir les 7 étapes de formation pour servir Dieu. 7 étapes de formation pour servir Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme nous le voulons. Malgré nos bonnes volontés, nous ne pouvons pas faire ces choses-là comme nous le désirons. La bonne volonté ne suffit pas. Nous devons le servir comme il le veut lui et selon ses principes à lui, si nous voulons avoir son approbation. Amen. Car ce n'est pas encore le tout de servir le Seigneur, il faut encore avoir son approbation. Ainsi, comment le servir? Et pour nous aider à bien le servir, nous allons prendre le meilleur exemple, l'exemple parfait, qui est l'exemple de notre Seigneur Jésus. Et c'est dans l'évangile de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13, que nous allons lire quelques versets, des versets que nous connaissons bien, comment Jésus lui-même a commencé son ministère. Il y a dans le récit Marc 3, verset 13, à partir du verset 13, il y a dans ces versets que nous allons lire des vérités en germe. Comment le Seigneur a servi son Père céleste. Il y a là, vous verrez, 7 étapes qui l'a dû franchir pour pouvoir servir son Père et être une bénédiction à l'humanité entière. Alors lisons Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et dans le texte grec, il y a la pensée « et m'adore juste une fois, pas plus. »« Et m'adore juste une fois. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu » et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et au verset 17, donc c'est la suite, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Il y a là des vérités extrêmement importantes pour chacun d'entre nous. Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces, nous dit la parole de Dieu. Alors, quelles sont ces traces? Comment Jésus a-t-il servi son Père? 7 étapes ont été franchies par le Seigneur pour qu'il accomplisse le ministère que son Père lui avait préparé. La première étape, nous la trouvons au chapitre 3 et au verset 13, quand il est dit, au verset 15 plutôt, au verset 15, quand Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser le Seigneur, mais le Seigneur lui dit, laisse faire maintenant. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Nous voyons dans ce verset une vérité importante qui est la première étape. La première étape pour la formation et pour servir Dieu, c'est l'obéissance. Être obéissant. Amen. Il y a là, dans ces versets, le cœur obéissant du Seigneur. Et nous le voyons après, dans tout ce qu'il dit, dans cette confrontation avec le diable, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit. Nous voyons donc que la première étape pour pouvoir servir Dieu efficacement est l'obéissance. Amen. Amen. Laisse faire maintenant. Il ne l'a pas fait, bien sûr, parce que lui-même en avait besoin. Mais il nous a donné un exemple afin que nous suivions ses traces. Il s'est identifié à nous afin que nous sachions comment le suivre et comment servir Dieu. Si nous voulons servir Dieu, mes chers amis, la première étape capitale, c'est être obéissant. Jésus a dû être obéissant à son Père en toutes choses. C'est pourquoi il pouvait être utilisé par son Père pour faire tout ce qu'il lui demandait. Cette obéissance-là était capitale. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Si nous voulons vraiment servir le Seigneur, la première vérité, le premier principe divin que nous devons bien garder dans notre cœur, c'est être obéissant au Seigneur et à sa parole. Car sans cette obéissance-là, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Amen. Et tout ce que le Seigneur fait dans notre vie, c'est toujours en vue de cette obéissance. Il est dit du Seigneur qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Cette obéissance n'a pas été facile pour notre maître, mais il l'a obéi pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir honorer son Père et pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Alléluia! Il faut qu'il y ait aussi en nous cet esprit d'obéissance. Car s'il est le maître, nous, nous sommes ses serviteurs. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris cela. À les entendre, on a encore l'impression qu'ils sont eux les maîtres et Jésus est leur serviteur. Nous le voyons dans leurs prières, nous le voyons dans leur façon de parler. Jésus n'est que leur serviteur encore. C'est Jésus qui doit faire leurs caprices. Et ils s'étonnent de ce que il n'y a pas l'approbation de Dieu dans ce qu'ils font. Une fois que nous sommes au Seigneur, écoutez-moi bien, ceci est important. Il est devenu lui le maître et nous ses serviteurs. Et ce qu'il attend de toi et de moi avant tout, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous pouvons faire beaucoup de choses, même au service du Seigneur. Bien souvent, nous faisons des choses pour couvrir notre obéissance, pour mettre de côté notre obéissance. Mais Dieu, lui, ne passera jamais là-dessus. Ce qui compte avant tout, c'est un cœur obéissant. Et les apôtres avaient compris cela lorsqu'ils commençaient à avoir de l'opposition et de la contradiction quand ils disent aux sacrificateurs et aux pharisiens qui les avaient arrêtés, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voyez-vous, il y avait dans le cœur des apôtres cette détermination à obéir à Dieu. Et c'est parce qu'il y avait cette détermination dans le cœur des apôtres que Dieu a pu les utiliser. Ce n'était pas qu'ils étaient meilleurs que les autres. Quand nous considérons la vie des apôtres, c'était des gens simples comme nous, n'est-ce pas vrai? On les reconnut parce qu'ils avaient été avec Jésus. Mais la qualité qui a permis, malgré la simplicité de ces hommes, la qualité qui a permis à Dieu de les utiliser, c'était cet esprit d'obéissance. Amen. Et c'est ce que Dieu cherche dans notre vie, dans ma vie. Amen. Si tu veux être utilisé par Dieu, tu dois lui dire « Me voici, Seigneur, pour t'obéir, pour faire ta volonté, non la mienne. » Et pas seulement obéir quand ça nous plaît. Pas seulement obéir au verset qui nous parle de bénédiction. Beaucoup de chrétiens, quand vous lisez leur Bible, ils ont souligné tous les passages. Vous voyez, il y a beaucoup de passages soulignés dans leur Bible. Mais c'est tous les passages concernant des bénédictions. Oh, Seigneur te bénira par ci, Seigneur te bénira par là. Tous les passages de bénédiction, c'est bien souligné. Mais tous les passages où il est parlé d'obéissance, c'est tout blanc. Il n'y a rien du tout. Il faut obéir ici, il faut obéir là. Donc, l'obéissance, c'est pour les autres. Les bénédictions, c'est pour nous. Et voilà que, après, on s'étonne. Pourquoi Dieu ne peut pas nous utiliser comme il le voudrait? Mes amis, nous sommes des serviteurs. Et un serviteur est utile que dans la mesure où il obéit à son maître. Amen. Seulement à cette condition-là, le serviteur est utile. Et bien souvent, le Seigneur testera votre obéissance. Parce qu'obéir quand tout va bien, obéir quand ça nous plaît, ne prouve pas que nous avons un esprit d'obéissance. Le Seigneur nous demandera des choses dans sa parole qui ne nous plaisent pas et que nous devons obéir. Et si nous obéissons, c'est à ce moment-là que nous prouvons que nous avons un esprit d'obéissance. Amen. Seigneur, cela ne me plaît pas. Seigneur, cela me dérange. Seigneur, cela me bouscule. Mais tu l'as dit, je veux obéir, je veux faire ta volonté. C'est par là que vous révélez un esprit d'obéissance. Et cet esprit d'obéissance doit être maintenu tous les jours de notre vie chrétienne. Amen. Ceci est très important, parce que nous pouvons bien commencer et mal finir. C'était le problème avec les Galates. Les Galates avaient commencé par l'esprit et ils finissaient par la chair. Et à un moment donné, Paul dit aux Galates, au Galates, chapitre 5, verset 7, il leur dit, « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Voyez-vous, à un moment donné, l'obéissance a stoppé. Et dans le texte grec, quand vous lisez dans nos Bibles, nous avons « Vous couriez bien. » Dans le texte, c'était écrit « Vous couriez si bien. » Autrement dit, vous avez si bien commencé. Qui vous a arrêté maintenant pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et quand vous lisez tout le contexte de l'Épître aux Galates, nous réalisons que ce qui avait empêché ces Galates d'obéir à la vérité, c'était qu'ils se mettaient de nouveau sous la loi. Il y avait l'erreur, il y avait les fausses doctrines qui s'étaient infiltrées. Et l'apôtre dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et c'est ainsi que dans l'église de Galate, il y avait comme de la fermentation, il y avait comme du trouble, les chrétiens étaient troublés, il y avait du levain au milieu d'eux, il y avait des fausses doctrines qui commençaient à s'infiltrer. Et c'est pourquoi il leur dit, vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Cet appel ne vient pas de celui qui vous a appelé, mais cet appel vient de l'ennemi qui veut vous arrêter et vous empêcher d'obéir. Il y a là une vérité importante pour nous, mes amis. L'obéissance, ce n'est pas seulement pour le début de notre vie chrétienne, où nous commençons bien, mais aussi tout au long de notre vie chrétienne. Il y a des tentations, il y a des subtilités, il y a des séductions. Et nous devons constamment nous attacher à cette parole pour ne pas être entraînés à tout vent de doctrine et à obéir à des fausses doctrines et non à la saine doctrine. Amen. Alors ce n'est pas le tout d'obéir, il faut encore obéir à la saine doctrine. D'où l'importance d'être toujours bien attaché à cette parole. Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Et comme les chrétiens de Bérée, nous devons, dans Actes 17, 11, nous devons examiner toutes choses pour voir si ce qu'on entend est conforme à la parole de Dieu. Amen. Voyez-vous, c'est cela. L'esprit d'obéissance contrôle tout, non seulement ce que nous lisons, mais ce que nous entendons aussi. Et les chrétiens de Bérée examinaient même ce que l'apôtre Paul disait. C'était l'enseignement de Paul qu'ils examinaient. Vous allez dire, oh, est-ce que Paul n'était pas fâché? Aujourd'hui, il y a certains apôtres, si vous leur dites, attends, voir un petit peu, je vais contrôler ton message. Comment? Tu n'as pas confiance en moi? Mais tu te moques de moi? Il y en a qui seraient offusqués. Un apôtre ou un prophète qui refuse d'être contrôlé dans son message, s'il refuse de l'être, n'est pas un vrai apôtre ni un vrai prophète. C'est un faux prophète et un faux apôtre. Car le vrai apôtre se réjouit de voir les chrétiens sonder les Écritures, vérifier si tout ce qu'on entend, tout ce qu'ils entendent est conforme à la vérité de la parole. Alléluia! Moi, je me réjouis quand quelqu'un vient me voir après. Sam, j'aimerais avoir quelques petites lumières. La parole de Dieu dit ça. Ah oui, mais moi, ça ne me fâcherait pas du tout. Je dirais, oh, mais c'est merveilleux. Au moins, voilà un frère et une sœur qui n'acceptent pas n'importe quoi, qui vérifient tout et qui n'acceptent que ce qui est écrit. Même si c'est un apôtre, vous avez le droit et le devoir de tout contrôler. Car si cet homme s'égare, où est-ce que vous allez? Vous vous égarez avec lui. Et il en est de même aujourd'hui d'ailleurs. Combien d'hommes et de femmes, de chrétiens ont bien commencé et commencent à mal finir parce qu'ils suivent un homme aveuglement. On le suit, ah oh, mais c'est un apôtre, c'est un prophète. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Non mes amis. Première qualité. Si tu veux être utile, tu dois être obéissant au Seigneur et à sa parole. Pas à n'importe qui. Amen. Sinon, tu finiras sur une voie de garage. Sinon, tu te demanderas un jour, où suis-je? Voilà pourquoi aujourd'hui, des multitudes de chrétiens sont dans la confusion. Oh, je ne sais pas où j'en suis. On entend tellement de choses. Mais contrôle toutes choses selon la parole. Et tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne seras pas dans la confusion. Amen. Alors, être obéissant, ça c'est la première qualité. Si tu veux que Dieu t'utilise et que tu puisses vraiment être une bénédiction. Voyons maintenant la deuxième qualité. Nous la trouvons au verset 16. Il est dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. » Les cieux s'ouvrirent. Il y a là, dans ce récit-là, une deuxième vérité, qui est la deuxième étape. Jésus ici, quand les cieux s'ouvrent, c'est comme si son Père lui disait « Maintenant, tu es accepté par le Père. » Quand on marche dans l'obéissance, la deuxième étape, c'est qu'on est accepté par... Jésus a été accepté par son Père. Nous aussi, nous sommes acceptés par le Père à cause de Jésus, son Fils bien-aimé. Amen. L'Épître aux Éphésiens nous dit que nous sommes acceptés en Jésus, le bien-aimé. Éphésiens 1, 16. Il nous a acceptés. Les cieux s'ouvrent. Voyez-vous, à partir du moment où il y a l'obéissance, les cieux s'ouvrent. Dieu nous accepte. Et il y a là une vérité importante. Dans de différentes versions, il est dit, il nous a acceptés en son bien-aimé, Éphésiens 16. Il nous a rendus favorables, il nous a accueillis, il nous a enrichis. Autrement dit, c'est là une vérité importante. En Christ, nous sommes acceptés aux yeux de Dieu le Père, à cause de Jésus son Fils. Savez-vous pourquoi cette vérité de l'acceptation est importante? Parce que lorsqu'on sert le Seigneur, tôt ou tard, on sera rejeté par les hommes. Amen. En servant le Seigneur, vous serez rejeté par les hommes. Et si vous n'avez pas réglé le problème d'avoir été accepté par le Seigneur, le moindre rejet des uns ou des autres sera pour vous un obstacle pour servir le Seigneur. Et vous allez dire, mais comment ça se fait? Pourquoi je suis rejeté? Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourtant, je fais tout ce que je peux, mes amis. Le seul problème du rejet par les hommes peut être réglé si tu sais dans ton cœur que même si les hommes te rejettent, Dieu, lui, t'a accepté en Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia! Amen! Et ça, c'est une vérité capitale. Tu dois t'en rappeler, surtout quand tout ira mal, surtout quand on te rejettera. Ne te désespère pas. Ne fais pas une dépression. Ne dis pas, Seigneur, est-ce que tu me rejettes aussi? Non. Si les hommes te rejettent, sache que pour servir le Seigneur, il y a une vérité capitale que tu dois croire et recevoir et caresser dans ton cœur. On me rejette, mais Jésus ne me rejette pas. Mon Père m'a accepté. Il m'a rendu favorable. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Mes amis, si vous voulez être utile au service du Seigneur, il y a là une vérité importante pour nous et pour vous. Vous serez rejeté, vous serez accepté par les uns, mais rejeté par les autres. Jésus était parfait. Est-ce qu'il a été accepté par tout le monde? Et pourtant, il était parfait. Alors nous, ne nous faisons pas d'illusions. Nous qui sommes imparfaits, à combien plus forte raison nous serons rejetés par les hommes? Et si tu veux servir Dieu en pensant que tout le monde t'acceptera, tu te fais des illusions. Et bien vite, tu t'arrêteras dans ton travail pour le Seigneur. Et combien sont sur la touche maintenant? Ils ont bien commencé. Et tant qu'ils avaient l'approbation des hommes, ils continuaient leur travail. Mais le jour où quelque chose est venu se placer en obstacle et les arrêter et les rejeter, c'était trop pour eux. Ah non, si c'est ça, je ne peux pas, je ne peux plus continuer. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens ne sont pas utilisables par le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas réglé ce problème-là. Tu seras tôt ou tard soit accepté, soit rejeté. Ton service pour le Seigneur ne doit pas dépendre de cela. Ton service pour le Seigneur doit dépendre de ton acceptation par le Seigneur. Alléluia! Il nous a acceptés. Si nous sommes acceptés, c'est à cause de Jésus et à cause de Jésus seul. Amen. Alléluia. Et nous le serons toujours si nous restons près de lui. Si nous restons près de lui, nous serons toujours acceptés. Ainsi, gardons cette vérité. Ce sera comme un baume sur notre cœur qui nous permettra de tenir et de combattre le bon combat de la foi, de servir le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Si Jésus m'accepte, si Dieu le Père m'accepte, que peuvent me faire les hommes? Personne ne pourra m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter quand je sais que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia! Voilà des paroles que nous devons caresser, serrer dans notre cœur. Sinon, à un moment donné, comme avec les Galates, nous commencerons par l'esprit et nous finirons par la chair. Un peu de levain fait lever toute la pâte et nous cesserons notre course. Et cependant, Dieu veut que nous allions bien plus loin. Amen. Première étape, être obéissant. Deuxième étape, être accepté. Nous sommes acceptés. C'est une grâce de Dieu. Amen. Cela ne dépend pas de tes mérites. Cela dépend de sa grâce. La grâce, c'est une action imméritée. C'est quelque chose que Dieu nous donne et que nous ne méritons pas et que nous ne mériterons jamais. C'est une grâce. Je suis accepté en Christ, à cause de Christ, à cause du sacrifice de Christ, à cause de la justice parfaite de Christ. Quand Dieu me regarde, il me voit en Christ. Alléluia! Si le Fils a été accepté par le Père, nous sommes acceptés par le Fils devant le Père. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Troisième étape maintenant. Au verset 16, il est dit, « Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Troisième étape, être rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre. Il y a là, troisième étape, nous ne pouvons pas servir le Seigneur par nos propres forces. Amen. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Être rempli de l'Esprit. Et nous voyons ici Jésus commencer son ministère. Il n'a pas fait un pas dans son ministère sans être loin du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, tout ce qu'il a fait, il l'a fait sous l'onction et l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Et nous de même, mes chers amis, nous ne pouvons faire l'œuvre de Dieu sans être remplis du Saint-Esprit. Premièrement, il nous faut d'abord être nés du Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance, être convertis, nés de nouveau. Je pense que vous avez tous fait cette expérience. Il faut d'abord être né de l'Esprit, naître de nouveau pour pouvoir d'abord devenir un enfant de Dieu. Mais ensuite, acte 1, 8 nous dit,
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le baptême dans le Saint-Esprit, avec la manifestation du parler en langue, est absolument indispensable si nous voulons servir le Seigneur. Amen. Nous en avons besoin. Et cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit doit se faire une fois, bien sûr. On est une fois baptisé dans le Saint-Esprit lorsque nous parlons en langue et glorifions Dieu. Mais cette expérience doit être renouvelée chaque jour. Éphésiens 5, 18 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Mais savez-vous que dans le texte grec, il est dit « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, mais si vous l'avez été il y a 10 ans, 15 ans, mais vous pouvez être complètement vide maintenant. Beaucoup de chrétiens ont été baptisés il y a des années en arrière, mais maintenant il n'y a plus rien du tout. Et voilà pourquoi, si nous ne restons pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas servir le Seigneur efficacement. Être rempli du Saint-Esprit, dans Éphésiens 5, 18, il est dit « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Ce n'est pas une option. Dans le texte grec, il y a la pensée d'un impératif. C'est un impératif, ce n'est pas une option. Ce n'est pas « Oh, si j'en ai envie ». Ce n'est pas « Oh, ça c'est pour le tempérament bouillant. Moi j'ai un tempérament timide, c'est pas pour moi. » Non, il n'est pas question de tempérament. Oh, c'est pour les serviteurs de Dieu, c'est pour les missionnaires. Moi je ne suis pas serviteur de Dieu, ce n'est pas pour moi. Non, c'est un ordre pour tout chrétien. Car si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, automatiquement nous ne le servirons pas comme il le faut. Nous travaillerons beaucoup et nous récolterons peu. Amen. Alors, comment être renouvelé? Eh bien, dans Éphésiens 5, 18, 19, il est dit « Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, comme nous l'avons fait ici. Continuons de le faire, continuez de le faire à la maison, continuez de le faire dans votre église. Continuons de le louer, de l'adorer de tout notre cœur. C'est un moyen extraordinaire pour être renouvelé dans la vie de l'Esprit. Amen. » Voilà pourquoi nous passons beaucoup de temps à louer, à adorer le Seigneur. C'est très important, très important. C'est pour glorifier Dieu. Et une fois que Dieu est glorifié, nous sommes nous-mêmes renouvelés, renouvelés dans notre esprit. Alléluia! L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Savez-vous que dans le texte grec, quand il dit « s'édifie lui-même », le verbe « édifier » veut dire « celui qui parle en langue se charge lui-même comme une batterie ». Avez-vous vos batteries à plat? Est-ce que vous êtes à plat? La méthode divine pour remplir nos batteries, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se charge lui-même comme une batterie. Alléluia. C'est pourquoi Paul disait « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et vous savez à qui il disait cela? Aux Corinthiens, qui était l'église qui parlait le plus en langue. Alors Paul leur dit aux Corinthiens, « Vous parlez beaucoup en langue, mais moi je parle encore beaucoup plus que vous. » Alors vous vous rendez compte? Et pourquoi il parlait en langue? Il y avait quelque chose d'important là. C'est parce qu'en parlant en langue, il s'édifiait lui-même. Bien sûr, c'est à la maison. Il s'édifiait, il parlait en langue. Parce que quand il disait 10 000 mots en langue à la maison, les quelques mots qu'il disait à l'église, avec son intelligence, étaient chargés de la puissance de Dieu. Alléluia! Si tu veux que tes paroles portent du fruit, si tu veux que tes paroles dans le témoignage et portent du fruit et un impact, il faut d'abord que tu aies parlé 10 000 paroles en langue dans ton culte personnel, dans ta vie privée. Et quand tu te seras édifié, fortifié, renouvelé, les quelques mots que tu diras porteront. Alléluia! Et tu n'auras pas besoin de suivre toutes ces fausses doctrines et ces fausses expériences qui se manifestent aujourd'hui au milieu de nous, un peu de partout. Vous n'avez pas besoin d'aller je ne sais où à Toronto ou autre pour essayer d'être renouvelé dans l'esprit. Ce n'est qu'une imitation. La réalité est dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons tout ce qu'il faut. Si tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, la Bible nous dit que nous n'avons pas à recevoir une nouvelle onction. Dans les Actes des apôtres, vous ne voyez jamais un endroit où il est dit que les apôtres cherchaient une nouvelle onction. Quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, c'était suffisant, ils avaient tout reçu. Vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez une puissance, Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'était terminé. Ils ont reçu la puissance. Et maintenant, il fallait qu'ils obéissent. Il fallait maintenant qu'ils soient renouvelés dans cette vie de l'Esprit. Mais à aucun passage, il est dit, vous devez recevoir une nouvelle onction. Cela n'est pas biblique. Et si vous allez chercher autre chose que la Bible interdit, vous risquez de recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit. Et vous le payerez cher, comme beaucoup le payeront cher maintenant, avec toutes ces gymnastiques et ces manifestations qui déshonorent Dieu. Tôt ou tard, ils le payeront cher. Mes amis, la parole de Dieu est là. Nous avons tout reçu. Alléluia! Nous devons être renouvelés, être remplis de l'Esprit. C'est à croire que ces gens qui vont là-bas et qui courent partout ne savent pas comment être remplis du Saint-Esprit, ne savent pas comment être renouvelés dans la vie de l'Esprit. Les méthodes divines sont là. La méthode de l'apôtre Paul, c'est la bonne et vieille méthode qui remplit le chrétien, qui le renouvelle le chrétien, et qui lui permet d'être renouvelé. Alléluia! Amen. Être rempli du Saint-Esprit. Amen. Être renouvelé dans la vie de l'Esprit, au travers de cet esprit de louange, d'adoration, de ces langues nouvelles. Puissions-nous ne jamais éteindre ce feu, sinon nous risquons d'aller nous chauffer à des feux étrangers qui nous brûleront et qui nous disqualifieront pour le ministère. Car Dieu a été très sévère dans l'Ancien Testament concernant les feux étrangers. Amen. Tous ces feux étrangers, Dieu était très sévère. Il ne voulait pas d'imitation. Il voulait la réalité. Et la réalité est là, dans sa parole. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin pour chacun d'entre nous. Et au travers du parler en langue, de la louange et de l'obéissance à sa parole, car il est dit, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Plus tu obéis à sa parole, plus tu seras renouvelé dans la vie de l'Esprit. C'est en obéissant à sa parole qu'on est renouvelé aussi. Mais ce n'est pas en obéissant à autre chose qu'à sa parole. Si nous obéissons à autre chose que sa parole, nous éteignons l'esprit. C'est pourquoi nous devons prendre garde. Nous avons tout pleinement reçu. Mettons simplement en pratique tout ce que nous avons reçu. Amen. Alors après, on en est à quelle étape ? Troisième étape. Maintenant, quatrième étape, verset 17. Quatrième étape. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans ce verset-là, il y a la quatrième étape. La quatrième étape, c'est chercher à être agréable à Dieu et non aux hommes. Chercher à être agréable à Dieu et non aux hommes. Voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, le Père, donc, approuve son Fils et trouve en lui tout son délice. Pourquoi ? Parce que le Fils cherchait continuellement ce qui était agréable au Père. Amen. Dans Jean chapitre 8, verset 29, il est dit, Le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. N'est-ce pas merveilleux? Et nous voyons là une quatrième étape. Nous devons toujours chercher à plaire au Seigneur et non aux hommes. Toujours chercher à plaire au Seigneur et non aux hommes. Et c'est là un des plus grands dangers dans le service pour le Seigneur. Chercher à plaire aux hommes. Dire des choses que les gens aiment entendre, au lieu de dire les choses dont les gens ont besoin d'entendre. C'est par là que nous voyons si un homme est vraiment envoyé de Dieu. S'il dit des choses pour plaire à l'un ou à l'autre, ou s'il dit les choses parce que les hommes et les femmes qui l'écoutent ont besoin d'entendre des vérités, peut-être pas agréables, mais ils ont besoin de les entendre. Alléluia! Il nous faut régler ce problème, mes amis. Si tu veux servir Dieu, tu dois dire comme Paul: si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Amen. Galates, chapitre 1, verset 10. Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Là, au plus profond de vous-même, vous devez dire: Seigneur, si je te sers, c'est à toi que je veux plaire. Et en plaisant au Seigneur, forcément vous déplairez aux autres. Amen. Forcément. Mais il faut être prêt à subir cette contradiction. Parce que l'amour du Seigneur est plus grand que n'importe quoi. Parce que vous savez qu'un jour, vous aurez des comptes à rendre devant Dieu. Quatrième étape. Si tu veux que Dieu t'utilise, tu dois avant tout chercher à plaire à Dieu et non aux hommes. Il faut que tu règles cela au fond de toi-même, car tant que cela n'est pas réglé, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Parce que s'il t'envoie quelque part, tu n'accompliras pas la mission qu'il te demande. Tu vas dire des choses de travers. À cause de l'un, quand tu vois cette personne, tu dis une chose. Quand tu vois une autre personne, tu dis autre chose. Et c'est ainsi que certains, à l'un ils disent blanc, à l'autre c'est noir, à l'autre c'est gris, à l'autre c'est bleu, à l'autre c'est orange. Ils ont toutes les couleurs, ils passent par toutes les couleurs. Et ils se demandent pourquoi. Et Dieu ne les bénit pas. Ce sont les chrétiens caméléons. Ils passent par toutes les couleurs. Ils n'ont pas le courage de leur conviction. Et la crainte des hommes est plus grande que la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, la seule crainte qui te libère de la crainte des hommes, c'est la crainte de Dieu. Amen. Et c'est quand tu as la crainte de Dieu que tu es libéré de la crainte des hommes. Et que tu peux, alors à ce moment-là, servir les hommes. Parce que tu n'es plus leur esclave. Tu ne subis plus leur influence. Tu es dans la main de Dieu, un instrument pour dire ce qu'il faut dire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Toujours dans l'amour, mais c'est la vérité dans l'amour. Amen. Ainsi, quatrième étape, chercher à plaire à Dieu. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez combien la vie de fils, dès le début de son ministère, était agréable à son Père. Voilà pourquoi le ciel était ouvert. Le ciel sera ouvert sur toi si tu recherches la gloire de Dieu. Et si tu ne cherches qu'à plaire à ton Père et à ton Seigneur, le ciel sera ouvert. Même si des portes sont fermées devant toi, ce n'est pas important. Beaucoup de portes peuvent se fermer, mais si le ciel est ouvert, tu auras toujours un travail à faire pour le Seigneur. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Être agréable
Adieu, puissions-nous rechercher cela au plus profond de nous-mêmes. Cinquième étape. Chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Car cinquième étape, être tenté ou testé par le diable. Il y a là une vérité importante. Le diable a essayé de tenter notre Seigneur pour l'empêcher d'être totalement obéissant à son Père. Amen. Il voulait trouver la faille pour l'empêcher d'obéir. Et s'il l'avait réussi à empêcher notre Seigneur d'obéir dans un petit domaine, c'était fini pour notre Seigneur. Il ne pouvait pas accomplir l'œuvre de rédemption que son Père lui avait confiée. Il a été testé, mais il en est sorti vainqueur. Et s'il en est sorti vainqueur, toi aussi tu seras testé, tenté par le diable, de différentes façons. Mais s'il a vaincu, tu peux aussi être vainqueur. Alléluia! Car s'il a été vainqueur, il n'en a pas été pour lui-même. Il a été pour toi et pour moi. Alléluia! Quelle consolation! Savoir que le Seigneur a vaincu le diable pour nous-mêmes, de telle sorte que nous aussi, nous pouvons sortir triomphants et vainqueurs de chaque épreuve et de chaque tentation. Amen. Alors ne te décourage pas que dans cette tentation et ces tests, tu puisses dire, Seigneur, je veux te rester fidèle. Tu as vaincu, tu me rends vainqueur. Alléluia. Que la tentation, l'épreuve vous jette près du Seigneur et non pas loin du Seigneur. Alléluia. Si vous devez tomber, tombez à genoux aux pieds du Seigneur. Et celui qui avance à genoux ne reculera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Sixième étape. Être rempli de la parole de Dieu. La sixième étape. Comment Jésus a-t-il vaincu le diable? Il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Être rempli de la parole de Dieu. Si vous voulez servir le Seigneur, il vous faut bien connaître votre Bible. Et pas seulement des versets préférés, mais la parole de Dieu. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Il est vital de bien connaître sa parole. Le diable est tellement rusé, les fausses doctrines sont tellement rusées, les nouvelles révélations, les nouvelles expériences sont tellement pleines de séduction. Si vous ne connaissez pas bien votre parole, vous serez séduit. Mais celui qui connaît sa parole, qui connaît le « il est écrit » et « il est aussi écrit », discernera les ruses du diable. Amen. Et ainsi sortira vainqueur. Amen. Amen. Comment Jésus a-t-il vaincu le diable? Par la parole. C'est par la parole que tu vaincras. Lis ta Bible, médite-la et oppose la parole de Dieu ou à tous les mensonges du diable et tu en sortiras vainqueur. Amen. Amen. Et je termine. Septième étape. Quand tu as maintenant l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu dans tes mains, tu peux être un témoin de Jésus-Christ, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors voilà, la septième étape, c'est être un témoin de Jésus-Christ. Être un témoin. Maintenant, Dieu peut t'utiliser. Tu peux aller. Le ministère de Jésus a commencé. Le diable a été vaincu. Il connaît sa parole. Et il peut maintenant être utilisé par le Seigneur. Et comment être utilisé par le Seigneur? Il te faut ces deux armes absolues. Être rempli du Saint-Esprit, être rempli de la parole de Dieu. Amen. Ces deux armes doivent être dans ton cœur. Tu dois en être rempli. Tu dois lire et méditer la parole. Tu dois en être rempli. Et tu dois louer ton Sauveur. Tu dois glorifier ton Seigneur. Tu dois obéir à sa parole. Et tu seras ainsi rempli du Saint-Esprit. Et rempli de la parole, car c'est en étant rempli de la parole que tu discerneras toutes les ruses du diable. Et tu contrôleras tout par la parole. Amen. Si ce que tu entends n'est pas, si un enseignement ou une expérience que tu entends n'a pas été prêché,
ni pratiqué par le Seigneur et par ses apôtres, tu dois le mettre de côté. Amen. Car le modèle est là. C'est ce modèle que nous devons suivre. Un autre modèle, c'est un autre évangile. Une autre révélation que celle de la parole, c'est un autre évangile. Et nous n'en voulons pas que le Seigneur nous donne d'être restés fidèles à cet évangile qui se libère. C'est la bonne nouvelle qui transforme, qui libère, qui réjouit, qui satisfait pleinement les cœurs. Alléluia! Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissions-nous serrer ces paroles dans notre cœur et glorifier le Seigneur et le servir en vainqueur. Et pour vaincre. Amen.
Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Alléluia.
Seigneur Jésus.
Jésus.
Merveilleux Rédempteur.
Alléluia, Seigneur.
Merci pour ta parole.
Amen.
Merci pour ton exemple, Seigneur.
Amen.
Et nous voulons suivre ton exemple, car tu es l'exemple parfait. Ce n'est pas un homme que nous voulons suivre, ni une femme.
Amen.
Ni un grand apôtre, ni un grand prophète, c'est toi. Notre modèle parfait.
Merci Jésus.
Donne-nous de nous attacher à toi. De vivre avec toi. De vivre pour toi. Et de nous nourrir continuellement de sainte parole. Qui nous donnera le et ta volonté seule, qui demeure éternellement et qui est bonne, agréable et parfaite.
Alléluia.